J'ai appelé ce texte « Promenade avec le père » parce qu'il ne s'agit pas du tout d'un cours universitaire. Il ne faut pas attendre de moi cela, n'est-ce pas? Voilà. Rien ne caractérise mieux Paul Claudel que ces deux mots. L'œil écoute. C'est le titre d'un de ses livres. Son regard entend l'image comme à son oreille, le son se fait image. Il se décrit quelque part, assis sous la chaire de l'église des Sablons à Bruxelles, qui représente les symboles des quatre évangélistes. Il tient serré la corne du bœuf. Il s'accroche à ce beau morceau de sculpture baroque. Il en palpe le bois patiné par le temps et, ainsi appuyé, laisse libre cours à sa méditation. Qu'il se lève ou qu'il marche, il prend sa canne. Elle me permet, dit-il, de toucher, de tâter, de ressentir, de frapper, de retrouver toute route où l'impulsion de ma volonté me transporte. Claudel a toujours été un très grand marcheur. L'idée chez Claudel prend naissance par les sens. Une pensée née de l'abstraction, il la refuse. De là sans doute le désarroi de sa jeunesse au lycée Louis-le-Grand, dont l'enseignement si abstrait agressait sa sensibilité comme les fausses notes l'oreille du musicien, d'où le désespoir, les marches interminables dans Paris. Il avait besoin de sentir exister le monde sous ses pieds et autour de lui. Il allait par les rues. C'était le temps des frémissements anarchiques, anarchistes, qui rencontraient en lui l'écho des Zérini de son cher Échille, un souffle, une bouffée d'air. Alors, c'est tout simple, il ne pouvait pas faire autrement que de rencontrer Rimbaud, n'est-ce pas? Je laisse à d'autres qui l'ont fait avec un talent que je n'ai pas le soin de défiler pour vous la vie de Claudel. Pour ma part, c'est le simple regard d'une fille sur son père que je tenterai de projeter comme un rayon, un éclairage tout personnel mais modeste. Claudel, donc, pour moi, c'est un œil qui écoute. Je le suis. Il marche dans l'allée des Tilleuls à Brangues pour rejoindre au village l'église où il s'arrête avant de poursuivre sa promenade jusqu'au Rhône. Il a sa canne sous le bras. Il se frotte les mains nerveusement. C'est vrai, il avait tout le temps ça. Comme pour chasser une démangeaison. Sa bouche est très mobile, il grimace des mots à moitié éclos, il parle tout seul. Parfois, il s'arrête. Avec sa canne, il fouille quelque chose. C'est un lierre qui en serre un tilleul, il tire dessus. Et puis, il reprend sa marche. Au milieu de l'allée, il y a un banc, il s'y assied, ou bien sur le mur qui surplombe un pré plus bas, et il regarde les montagnes en face, en rêvassant. Enfin, il entre dans le village, il croise ses habitants. Une femme l'intéresse par sa stature et son visage laid mais expressif. Elle est entourée d'une marmaille qui sort de sa petite maison comme une bande de lutins crasseux. Voilà l'église où il s'engouffre, havre de fraîcheur, alors que dehors c'est la fournaise du mois d'août, et il va directement au mont du château. Ce banc ressemble à une boîte avec deux portes. Il installe sa canne après une génuflexion maladroite et s'assied, la tête dans la main, comme s'il portait une boule. En voilà pour trois quarts d'heure. Moment intense de prière et de méditation, pendant lequel naît peu à peu, sous son regard intérieur, ce qui fera l'objet le lendemain matin dans son bureau que nous appelons la belle Judith de l'écriture du jour. La promenade continue. Il descend vers le Rhône, longe la mystérieuse, C'est ainsi qu'il nomme une mince rivière qui, sur la carte, s'appelle en fait la Save. La mystérieuse le guidera jusqu'au fleuve tumultueux, encombré d'îles pleines d'oiseaux et couvertes de ces beaux peupliers d'Italie, minces comme des cierges, groupés pour certains comme la flûte du dieu Pan. Et la nymphe Syrinx n'est pas loin, qu'un rayon de soleil éclaire parfois entre les roseaux. On entend la musique du vent et de l'eau qui court, irisée de tourbillons. Un poisson, de temps à autre, saute et retombe dans l'eau qu'il absorbe à nouveau. L'œil écoute et le poème de Pan et Syrinx naît doucement. Je ne peux résister au plaisir d'en lire un passage, d'autant plus que j'ai entendu mon père le lire à Brangue le lendemain du jour où il l'avait écrit. Et je vais essayer si je peux, de rétablir la façon dont il le lisait. Air de Syrinx, l'invention de la gamme, de l'air, de l'eau, de l'air, de l'eau, du bleu, du blanc, du ciel, du vent, du clair, du sombre, une épaule qui brille dans l'ombre, du foncé, du pointu, du grave, de l'aigu, une brise, un ouragan. M'entends-tu, vieux Pan, m'entends-tu? Syrinx t'appelle en chantant, du bleu, du feu, un rire, un cri, une affaire de cris et de cheveux, un tourbillon de cheveux blonds et de rires aigus et de bons. Tourne, tourne avec moi, m'entends-tu, Pan, m'entends-tu, Pan? Penses-tu me saisir? Ah, penses-tu me tenir, vieux Pan, saut Pan, fou Pan? Je monte et je redescends, je remonte par l'échelle, je descends par l'escalier, je danse sur le bout du pied, sur l'escalier du meunier. Penses-tu me saisir? Penses-tu me tenir de tes 10 doigts, vieux Pan? Penses-tu dans la lumière et le sable, jusqu'aux sources du ciel ineffable, arrêter le grand Rhône intarissable? La lune qui se noie, est-ce qu'on la boit, dis-moi? Est-ce qu'on saisit la soie? Je fuis, je fuis, je fuis, j'appelle, je suis, j'accours, j'échappe. Qui me saisit, qui m'attrape? Sera-ce toi, vieux Pan, 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 qui t'en va clopin, clopin? Essaie de la tenir, essaie de la tarir, essaie de la saisir. Point de note si basse attaquée que je ne puisse remonter jusqu'en haut du peuplier. Penses-tu m'attraper, Pan? Penses-tu m'attraper, Pan? Penses-tu m'attraper, Pan? Pan, 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 Pan. Penses-tu arrêter le courant inépuisable du clair, du bleu, du ciel, du feu, de l'eau, du sable, entre les saules et les sables, de Périeux au pont des yeux, dans un bond, dans un tourtillon, dans un flot, dans un tourbillon de rires et de cheveux blonds, dans cette arrivée de grands rires clairs et de grandes nappes claires et glauques, pan, 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 qui t'en va tambourinant. Ah, te crois-tu si savant? La Syrinx t'échappe en chantant, pan, 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 pan. Hélas, si Claudel revenait aujourd'hui sur ces mêmes bords du Rhône, il constaterait qu'une partie des îles a disparu, des barrages destinés à régulariser le cours du fleuve l'ont rendu lent et plat, il coule tristement une flaque entre des bords réguliers où des baigneurs étalent leurs anatomies beaucoup moins jolies que celles de Syrinx. Tout à l'heure, j'ai parlé de la belle Judith, le bureau de Claudel à Brangue au premier étage. Les murs de cette pièce, pourvus d'un beau plafond du XVIIe siècle, étaient autrefois couverts de tapisseries représentant l'histoire de Judith et Holopherne. La famille de Virieux, qui avait vendu Brangue à mon père, les a emportés. Il restait donc 4 murs ocre, dont le vide excitait l'imagination de l'écrivain. Alors, je vais vous lire quelques idées, quelques rêveries de Claudel, les images qu'il voulait voir dessinées sur ses murs. Idée pour des fresques dans la chambre de la belle Judith. La création du monde. Une harde d'éléphant. Le plus grand renverse de l'épaule un arbre immense qui s'écroule en diagonale. laissant tomber des nœuds de serpents dessus un grand nid, des aigles et des hérons fantastiques s'envolent. Dans l'étang au-dessous, il y a des hippopotames et des crocodiles. On voit dans le lointain s'édifier des termitières. Dans le coin gauche, les arches d'un immense pont sur lequel passe l'Éternel en costume de pontife. Sur un char, tenant le Saint-Sacrement comme un soleil qu'il montre à toute la nature. Autre idée, le déluge. Le paysage des Alpes, longue bande de rochers superposés, acropole vertigineuse de tous côtés des eaux ruisselantes et au-dessus un immense arc-en-ciel d'un bout à l'autre dominant toute la composition. Tout en bas et tout petit, Noé et ses enfants sacrifiant. Une toute petite note rouge vermillon dans le vaste édifice des ocres et des verres éteints. L'arche à une grande hauteur accrochée entre deux montagnes. Plus tard, quand il a été plus âgé, il a transporté son bureau au rez-de-chaussée dans une pièce que nous appelions la chambre du roi. Alors, de cette belle chambre, un jour, voilà ce qu'il dit. « Cette belle chambre claire où je travaille et par devant ce salon ténébreux, n'est-ce point la vision de Rimbaud dans une magnifique demeure ?» Cerné par l'Orient entier, j'ai accompli mon immense œuvre et passé mon illustre retraite. L'imagination, chez lui, trouvait toujours une issue concrète. Si le rêve l'habitait, ce rêve devait se matérialiser. À la question de Mallarmé, qu'est-ce que cela veut dire ? Il donnait sa réponse. Il ne la laissait pas en suspens. L'œil écoute, ai-je dit. Il y a chez Claudel un continuel échange entre ce que l'extérieur lui apporte, visage, mouvement des êtres et des choses, ville, paysage, tableau, bruit, à quoi font écho en lui les lectures du moment, les conversations dont il ne retient que ce qui l'intéresse. Pour les autres, sa surdité est un excellent prétexte pour les ignorer. Il fait son miel de tout cela. C'est le matériau qui sert à construire son œuvre. Écoutez-le parler du printemps. À la rencontre du printemps. Nous sommes tous partis cet après-midi à la rencontre du printemps 1936. Une pleine voiture de jeunes gens avec le vieux homme à la proue comme un chat-huant empaillé. Depuis deux jours, ses grands coups par farce sur la figure, comme avec un linge mouillé, nous indiquaient que cette fois, il arrivait de l'ouest. Alors il n'est que temps. Si nous voulons le rencontrer à moitié chemin, il faut se dépêcher. Dès Saint-Cloud, le printemps est là, qui nous siffle son petit air avec un sifflet de sucre. Les bourgeons se retiennent pour ne pas fleurir. C'est comme une bouche pour s'empêcher de rire qui fait le cul de poule, juste comme un bout de langue qu'on nous tire de temps en temps. Autrefois, sur les mail coach, du temps où les beaux messieurs et les belles dames allaient à la croix de Bernis, il y avait une espèce de postillon qui jouait de la trompette. Cette fois, nous n'avons pas de trompette. On n'en a pas besoin. Ce n'est pas le cuivre qui nous manque, et ni pas même l'or, la vraie. Le soleil couchant au bout de la route, tarde en tarde à grand orchestre du côté des quatre points cardinaux et se charge, en fait de métal, de fournir tout ce qu'il nous faut, vague sur vague, déjonchées l'une derrière l'autre de sa part, d'ajoncs et de verdurettes nous sont expédiés du fond de l'horizon. À peine avons-nous franchi l'une que la seconde arrive déjà sur nous. Tenons bien notre chapeau, cependant que nous sautons toutes ces barres fleuries, tous ces coups de printemps, ces bouffées de pluie en pleine figure et ces puissantes éruptions tout à coup sous nos roues de boue, comme quelqu'un qui éclate de rire la bouche pleine. Et déjà, de tous les côtés, dans les jardins, pêchés, arbres de Judée, attention, la rose a commencé. À Brangues, il ne tenait pas en place. Combien de promenades n'avons-nous pas faites avec une grosse voiture rouge décapotable, conduite par un aussi gros chauffeur qui s'appelait Raoul. On partait vers l'école des Alpes, vers la Grande Chartreuse, vers Ostel, rendre visite aux cousins, ou à Béon, chez la baronne Pierlot, vieille amie que Claudel s'évertuait à convertir et qu'il appelait affectueusement Voltaire en jupon. Il y avait toujours une halte pour pique-niquer ou goûter. Quand l'amie Margotine nous accompagnait, nous devenions la famille Fenouillard. Vous savez, les Fenouillards, c'est une bande dessinée écrite par un écrivain suisse appelé Christophe, qu'on a connu quand nous étions enfants. Si les Millot rendaient visite, nous rendaient visite, Madeleine Millot devenait Zénobie, Claudel, c'était Cassic, le chef, Madame Claudel, la reine-mère, mes deux sœurs avaient leur surnom, Chouchette et Gigette, et moi, j'étais la fifille. Mais puisque j'évoque Margotine, je vais m'attarder un peu à essayer de faire revivre cette femme si belle et si drôle. Pour ceux qui ont lu Protée de Claudel, qu'ils pensent à Brindosier, elle lui ressemble. C'est à Rio de Janeiro, en 1917, que Margotine fait son entrée dans l'univers claudelien. Mon père, ministre plénipotentiaire, était accompagné de Darius Millot, qui, mobilisé, lui avait été affecté comme secrétaire, et de Henri Hopneau, diplomate de carrière, dont la femme Hélène était une excellente photographe. Audrey Parr, dite Margotine, femme d'un diplomate anglais en poste à Rio, comme Claudel, étant française, avait tout naturellement fait la connaissance des hôtes de la négation de France. Sa gaieté avait séduit Claudel et ses amis. Il s'y ajoutait un réel talent de dessinateur que Claudel Proté s'est mis aussitôt à utiliser, comme il avait entrepris avec Millot la traduction et la mise en musique de l'Oresti, sans oublier des essais de photographie avec les conseils d'Hélène Hopneau. La splendeur de la baie de Rio et de la forêt tropicale qui l'enserre mettait le ministre et ses amis en effervescence. Mais l'arrivée de Nijinsky et de sa troupe fut l'étincelle qui mit le feu aux poudres, je veux dire la création du ballet de l'homme et son désir. Voici ce qu'en dit Claudel. L'homme et son désir est le fruit de la collaboration de trois amis qui, pendant l'année 1917, tenaient chaque dimanche dans la Serra qui domine Rio de Janeiro un pique-nique d'idées, de musique et de dessins. Ce petit drame plastique est issu de l'ambiance de la forêt brésilienne où nous étions en quelque sorte submergés et qui a presque la consistance uniforme d'un élément. Quelle est étrange la nuit quand elle commence à s'emplir de mouvements, de cris et de lueurs. C'est précisément une de ces nuits que notre poème a l'intention de figurer. Nous n'avons pas essayé de reproduire avec une exactitude photographique l'inextricable fouillis de la Floresta. Nous l'avons simplement jeté comme un tapis du violet, du vert, du bleu, autour du noir central, sur les quatre gradins de notre scène. Cette scène est verticale, perpendiculaire au regard, comme l'est un tableau, un livre qu'on lit. Si l'on veut, c'est aussi comme une page de musique, où chaque action vient s'inscrire sur une portée différente. Sur l'arête extrême défilent, toutes noires et coiffées d'or, les heures de la nuit. Au-dessous, la lune, conduite à travers le ciel par un nuage, comme une servante qui précède une grande dame. Tout en bas, dans les eaux du vaste marais primitif, le reflet de la lune et de sa servante suit la marche régulière du couple céleste. Le drame, proprement dit, se passe sur la plateforme médiane entre le ciel et l'eau. Et le personnage principal, c'est l'homme, repris par les puissances primitives et à qui la nuit et le sommeil ont enlevé tout nom et toute figure. Il arrive, conduit par deux formes exactement pareilles sous leur voile, qui l'égare en le faisant pivoter comme l'enfant qui est pris au jeu de cache-cache. L'une est l'image et l'autre le désir. L'une le souvenir et l'autre l'illusion. Toutes deux se jouent de lui un moment, puis disparaissent. L'argument est de Claudel, la musique de Millau, les décors et les costumes de Margotine, mais ce n'est pas Nijinsky qui le dansa, la folie l'avait emporté. Ce sont les ballets suédois qui l'ont donné à Paris au théâtre des Champs-Élysées en 1920, et la représentation a eu provoqué beaucoup de remous et de scandales. À partir de 1917 et jusqu'à sa mort, Margotine fera partie de notre vie. Elle surgissait, appelée par Claudel qui avait besoin de son crayon, par exemple, pour illustrer son poème sur Sainte Geneviève. Cela se passait dans le salon de la Légation de France à Copenhague en 1920. Madame Claudel montait sur le manteau de la cheminée, m'a-t-on dit. Mais peut-être était-ce seulement une table. Et couverte d'un drap de lit, prenait les poses que son mari lui indiquait et que Margotine transcrivait sur le papier. Le résultat en fut la magnifique édition réalisée à Tokyo en 1923. Si l'avers de l'édition japonaise de Sainte-Geneviève était illustré par les lavis d'Audrey Parr, le revers comportait, calligraphié par Claudel, un extrait des poèmes sur la muraille intérieure du palais impérial de Tokyo et une illustration du peintre Tomita Kessen. Nous allons voir maintenant quelques reproductions de ce volume. C'est une édition dont la couverture est en laque. C'est l'exemplaire que Claudel avait donné à l'empereur, au père de Hirohito. Nous allons peut-être pouvoir voir ces images. Voilà, ça c'est la couverture en laque de Sainte-Geneviève. Et vous voyez le personnage, c'est ma mère couverte d'un drap de lit qui... Alors l'image suivante. Là, c'est la deuxième page, le titre du volume, toujours avec le même graphisme, n'est-ce pas? Et en même temps, le sous-titre en japonais et une illustration à gauche qui doit être peut-être de Tomita Kessen aussi, je suppose. Et on va passer à la suivante, et là, je vais vous la lire. Alors là, c'est la dédicace par Claudel au père de... Voilà, je vous la lis. Exemplaire respectueusement offert à Sa Majesté l'Empereur par l'auteur Claudel. Mon exemplaire personnel ayant été volé à Marseille en même temps qu'une valise contenant divers objets précieux, Sa Majesté l'Empereur Hirohito a bien voulu me rendre l'exemplaire que j'avais offert à son père, Tokyo, 2 février 1927. Alors, la page suivante. Voilà encore ma mère, Geneviève, avec son drap de lit. Mm-hmm. C'est la dernière image et il y a une quantité d'images qu'on n'a pas pu tout microfilmer. C'est la dernière, celle qui fait mine. Et puis nous allons tourner de l'autre côté, vous allez voir les illustrations de Tomita Kessen. Voilà. Première partie, alors vous avez là, ça doit être, qu'est-ce que ça représente, un temple de Nara, non, c'est quelque chose de connu au Japon, non? Et puis il y a là un poème, un des poèmes sur la muraille intérieure de Claudel, qui est calligraphié, qui est autographe, hein, tout ça est autographe, c'est un dessin original. Puis l'image suivante, vous allez voir la suite, parce qu'on n'a pas pu tout photographier sur le même. Et voilà. C'est joli.
Oui, c'est
très beau. Et il y a encore une troisième image, mais on ne l'a pas mise, parce que ça se termine là, encore avec quelques glycines. Oui. Voilà. Ça, c'est un livre très, très précieux. Et je pensais que ça vous intéresserait que je vous le montre. Parce que, voilà. Bon, alors nous revenons à Margotine. Plus tard, Margotine a réalisé en 1934 les décors et les costumes des Coefforts créés au Théâtre de la Monnaie de Bruxelles par Ida Rubinstein. Pour Ida Rubinstein, encore, elle a fait les décors et les costumes du Festin de la Sagesse, dont Millau fit également la musique. Cette dernière œuvre, souvent donnée en concert, ne fut pourtant jamais réalisée sur la scène. Mais les maquettes existent, elles sont déposées à la Bibliothèque nationale et j'espère bien qu'un jour, un chercheur et un artiste les découvriront et susciteront un spectacle. Elles sont très très belles, ces maquettes. À Brang, Margotine était encore une fois mise à contribution pour illustrer Pan et la Syrinx, que je viens de vous lire, et faire quantité d'aquarelles qui nous enchantaient. Enfin, il y a dans les pièces du château trois paravents, dont l'un représente le crime du rouge et le noir, parce que la véritable histoire du rouge et le noir de Stendhal, ça s'est passé à Brang. Papa n'était pas du tout content de cette affaire-là, ça ne l'arrangeait pas du tout. Les pages de la correspondance de Claudel avec Audrey Parr, Margotine, pétulante de gaieté, donne pour moi l'image de mon père que je connais le mieux. Les exemples que j'ai donnés à Rio ou à Copenhague font de Claudel un diplomate plutôt insolite. Je n'oublie pas les séances à l'ambassade de France à Bruxelles, dans le bureau de l'ambassadeur, d'où s'échappaient des bruits étranges, murmures et cris. Il faisait répéter un chœur parlé, figurant le vent et la pluie torrentielle de l'automne au premier acte de l'otage pour de prochaines représentations à la Comédie française. Pendant ce temps, les gens qui attendaient dans le vestibule se demandaient qu'est-ce qui se passe. On entendait « il pleut, 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 le vent souffle ». Bon, j'espérais vous en faire entendre un enregistrement. Malheureusement, je ne l'ai pas retrouvé. Par contre, voici un poème lu par Claudel. Alors, c'est la nuit de Pâques que nous allons écouter maintenant, ce qui me permettra de boire un verre d'eau, d'ailleurs. Pourquoi ?
Claudel. La nuit de Pâques. Poème écrit au monastère de Saint-Maurice de Clairvaux, dans le Grand-Duché de Luxembourg. À travers la fenêtre sans rideau depuis longtemps, je vois une petite étoile me lire. Je ne dors pas, mais entre le samedi saint et Pâques, la nuit n'est pas faite pour dormir. Les montagnes et les forêts attendent, elles m'entourent dans une émanation lumineuse. La pleine lune, pas à pas, élève, suspend, face Dieu. La pleine lune sans homme, mort et donne au milieu de l'éternité. Heureuse nuit qui tout seul c'est l'heure où Jésus est ressuscité. Rien ne résiste à ce vainqueur. Porte close, il passe de l'autre côté du mur. C'est ainsi qu'à travers le temps, il passe sans qu'il en rompe la mesure. Nous ne savons qu'une chose arrive que si déjà elle est arrivée. Nous apprenons tout à coup que le Seigneur est ressuscité. Ce silence de tous les siècles avant moi, il n'y avait pas moyen qu'il continue. Il n'y avait pas moyen de la faire interroger que l'on dise plus longtemps. Elle s'est tue. Et ces trois, ce qu'elles ont vu, l'une à l'autre en tumulte, se sont mises à le raconter. La terre a rompu le silence tout à coup. Elle s'est mise à dire ce qu'elle sait. Le soleil n'est pas levé encore. Il y a une heure encore de cette immense solitude. Il n'y a pour garder le tombeau que ces millions d'étoiles en armes, vigilantes depuis le pont jusqu'au sud. Et tout à coup, dans le clair de lune, éclose en une grappe énorme dans le crochet, éclose au milieu de la nuit comme d'elle-même, les cloches se sont mises à sonner. On ne comprend pas ce qu'elles disent, elles parlent tous à la fois. Ce qui les empêche de parler, c'est l'amour, la surprise, toutes ensemble, de la joie. Ce n'est pas un faible murmure, ce n'est pas cette langue au milieu de nous-mêmes suspendue qui commence à remuer. C'est la cloche vers les quatre horizons chrétiens qui campanent à toute volée. Ce n'est point une parole humaine, c'est le triomphe, la vendange énorme de toutes les étoiles dans le ciel. C'est la terre délivrée vers Dieu, coup sur coup, qui pousse cet aboiement solennel. C'est l'âme à moitié déshabillée déjà qui pousse cette acclamation délirante. C'est les morts de tous les cimetières à moitié vivants qui se mêlent à ces cloches énormes et bruyantes. C'est le chaos du monde avec le péché dans une étreinte inexplicable. Et sur son visage tout à coup, un ressenti d'impression de ses lèvres ineffables.
Dans la vie de mon père, donc, l'activité du diplomate était étroitement mêlée à celle de l'artiste. Il n'en perdait pas une miette et tout lui servait. N'est-ce pas parce qu'il était aussi poète et dramaturge que Claudel a pu sentir, avant les économistes, le danger de la crise financière de 1929. Il l'a annoncé au Quai d'Orsay 2 mois d'avance dans un rapport resté célèbre. Comme les restés parmi ses collègues des affaires étrangères, un certain rapport rédigé après sa visite des usines Ford à Detroit, où était fabriqué le fameux modèle T, qui a apporté dans le monde de l'automobile une véritable révolution. C'est un hymne lyrique à la gloire de Ford et de sa voiture. Ce rapport, qui passait de main en main, a fini par être perdu, malheureusement. Mon père et ma mère ont été très heureux au Japon. Ma mère, à la fin de sa vie, en parlait avec nostalgie. La beauté de ce pays, la délicieuse et discrète hospitalité offerte à mes parents par vos compatriotes, a fait qu'ils se sont tout de suite sentis chez eux. Cela transparaît dans tous les textes que Claudel a consacrés au Japon. La somptuosité des temples de Nara et de Kyoto, comme celle des admirables paravents et kakemono. La fascination qu'exercèrent sur lui les spectacles de No, de Bunraku, de Kabuki. Nous en lisons les descriptions émerveillées dans l'oiseau noir dans le soleil levant. Comme il nous a donné avec 100 phrases pour éventail le sentiment de son intime pénétration de l'âme japonaise. Dans « Regard sur l'âme japonaise », c'est l'âme de Paul Claudel qui se fond dans l'âme japonaise comme l'ombre double du soulier de satin. En voici un passage. Me voici. À la suite d'une des figures familières de votre littérature, la poétesse Murasaki, par exemple, ou le bon Kenko, qui m'engage à pas silencieux dans le sentier des mystères. Il me semble que j'entends à ma droite le froissement de la soie aristocratique ou le tintement du chapelet contre le bol à aumône. Je suis une allée interminable que bordent d'énormes cèdres dont les troncs colorés se perdent dans un noir velours. Un violent rayon de soleil fait tout à coup fulgurer sur un poteau de pierre une inscription indéchiffrable. Les détours de l'étrange chemin servent à dépister les démons et à me séparer à jamais d'un monde profane. Sur une arche de corail, je traverse un étang de jade. Est-ce lui qui, par un éclair fugitif entre les nappes de lotus étalées, décèlera mes compagnons invisibles ? À l'ombre des siècles, avec une sébile de bois, je verse sur mes mains une eau froide, si saisissante que je renais. Derrière la porte fermée, je guette la cloche lentement qui mûrit, un cierge qui brûle, et là-bas, dans le chaos des feuilles, j'entends la voix du coucou par intervalle qui répond à la prédication éternelle de la cascade. Et c'est là que j'ai compris que l'attitude spécialement japonaise devant la vie, c'est ce que, faute de meilleurs mots, car la langue française n'offre pas beaucoup de ressources à l'expression de ce sentiment, j'appellerais la révérence, le respect, l'acceptation spontanée d'une supériorité inaccessible à l'intelligence, la compression de notre existence personnelle en présence du mystère qui nous entoure, la sensation d'une présence autour de nous qui exige la cérémonie et la précaution. Puisque je viens d'évoquer l'ombre double, comment ne pas rendre grâce à l'influence que le Japon exerça sur la maturation du soulier de satin, qui, rêvé déjà au Brésil, trouve en partie son aboutissement dans le palais de Nagoya, où Rodrigue a laissé sa jambe comme un ex-voto. 10 ans, tel le parcours de la lettre à Rodrigue. Cette jambe de Rodrigue perdue à Nagoya, je ne peux m'empêcher de penser qu'elle figure pour Claudel la perte de la 3e journée du soulier de satin brûlé dans l'incendie de l'ambassade lors du tremblement de terre de 1923 et qu'il a dû réécrire complètement. 3 mots dans le texte que je viens de lire. La sensation d'une présence autour de nous illustre le sentiment qui, depuis l'événement de 1886, ne l'a jamais quitté. Le sentiment de la présence de Dieu. Il est partout dans son œuvre. Et à partir de 1930, quand il se plongera définitivement dans l'océan de la Bible, il sera l'objet constant de sa recherche et de son désir. Claudel, homme de désir, bien heureusement inassouvi. Il développera ce désir comme Beethoven ses symphonies sans fin et sur tous les tons. Et c'est ainsi que naîtront les textes magnifiques de l'épée, le miroir, le poète regarde la croix, les vitraux de l'Apocalypse et tant d'autres. Tous publiés séparément, tous ignorés. Mais voici que près de 2000 pages du premier tome de son œuvre biblique viennent de paraître, et pour vous donner envie d'y plonger le regard, je ne peux résister à lire ce dernier texte tiré de la seconde note sur les anges, où se trouve un Claudel déjà en route vers l'autre rive, cette autre rive si merveilleusement esquissée dans les spectacles de nous. Alors voilà le texte. Quand l'attention et l'étude font la nuit autour de l'esprit, je me promène sur les rivages du ciel étoilé et je traite avec ces points innombrables qui du fond de l'infini viennent laper mes pieds l'âme à l'âme. Désirable population, richesse en comblant le cœur qui ne font qu'aiguiser l'enthousiasme. Quand sera-ce mon tour de partir? Quand plongerai-je à corps perdu dans le paradis mathématique? Quand, associant mon élan à ces immenses forces entrecroisées, m'embarquerai-je enfin sur cette mer intellectuelle et planterai-je une route inflexible vers ces constellations au-dessus de moi l'une sur l'autre qui équilibrent dans le noir leurs édifices algébriques? C'est en vain que pour me décourager, vous me parlez de milliards d'années-lumière et de cet infini de tous côtés autour de moi, multiplié par l'éternité. Toutes vos computations, je les engloutis d'une bouchée. Ce n'est pas quelque chose d'étrange et d'effrayant pour moi. C'est à ça que j'appartiens. C'est pour cela que je suis fait. C'est là-dedans que je suis chez moi. Voici le pays inépuisable, enfin, où je sais que la limite à l'infini est volatilisée par la distance. On m'a donné l'ouverture illimitée, quelque chose à la fois de peuplé et de complètement désert. Un Sahara lumineux dans le noir absolu fait de millions de grains de sable. Et je sais que de ce côté est ma véritable patrie, soit le vide sans fond, soit le nombre sans interruption, tous deux sont à la dimension de mon désir. Combien de temps encore resterai-je attaché à cette morne rive où ma nostalgie n'a pour elle que le compas et ce lent crayon qui inscrit quelques chiffres interrogatifs sur les marges de mon cahier de navigateur. Claudel maintenant a atteint l'autre rive. Je me souviens qu'il me disait autrefois à propos de la mort attendue, « I am thrilled, je suis très excité. » Voilà.